quand on est à son compte, c'est justement parce qu'on est à son compte que si on veut, on peut compter ses heures, et ça a été mon cas. Si mon objectif principal, au-delà de faire des légumes et que ce soit rentable, c'est d'avoir du temps libre. C'est-à-dire, concrètement, l'an passé, j'ai pris 3 mois de vacances dans l'année, 2 mois l'hiver et puis une semaine par-ci par-là. Je travaillais 28 heures en moyenne, 28h30 par semaine, le reste du temps, les 9 autres mois, et j'ai pris mes week-ends.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce 12e épisode des Mains Libres, on t'emmène dans l'Ariège, chez Joachim qui a 30 ans et s'est installé en maraîchage. Il va nous expliquer comment il s'organise au quotidien, quel a été son plan d'installation, mais aussi sa vision sur le futur de l'agriculture. On te souhaite une très bonne écoute en sa compagnie.
Bonjour Joachim.
Bonjour Julien, Louise.
Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta ferme ?
Alors, je m'appelle Joachim, j'ai 30 ans. J'ai lancé l'activité agricole il y a 5 ans, en 2017. Avant ça, j'ai fait 2 années de woofing, et encore avant ça, 3 années de biologie à l'université, que j'ai pas validé à la fin. Donc, au niveau de la ferme, je fais environ 4000 m², c'est-à-dire 0,4 hectares de maraîchage, en bio, très peu mécanisé, plutôt en non-travail du sol. Et après, sur la ferme, on a avec Hélène un peu plus d'un hectare de vergers fruitiers variés en mode pré-verger, c'est-à-dire avec des arbres qui vivent longtemps et qui sont distancés. Voilà, ce n'est pas des vergers où il y a un arbre tous les mètres.
Ouais.
Voilà, petite structure, peu de charges.
D'accord. Et du coup, pourquoi tu as voulu partir dans le maraîchage ? Parce que du coup, tu as fait des études de biologie et tu as arrêté. Du coup, tu ne les as pas validées, il me semble, c'est ça. Et après, comment tu t'es formé ? Est-ce que tu t'y connaissais un peu dans ce domaine ?
Il y a un truc sur lequel je veux appuyer, c'est que c'est assez rare de rencontrer des gens qui font ça aussi jeunes alors qu'ils n'ont pas grandi là-dedans. Et on en parlait de se dire, nous, on a à peu près l'âge que tu avais quand tu t'es lancé dans... Tu t'es dit que tu allais faire du maraîchage. Comment ça t'est venu ? Pourquoi t'as fait ça ?
Alors, il y a deux questions. comment ça m'est venu ? Quand j'ai eu 20 ans environ, j'ai précisé un peu plus ma vision du monde. Et je me suis senti très bien dans les idées de décroissance. C'est-à-dire cette idée, en fait, que... on consomme trop parce qu'on a trop de moyens en France et que la consommation induit de la destruction de l'environnement et de l'exploitation humaine. Donc, quand j'étais universitaire, c'est-à-dire j'étais étudiant à la fac, et j'ai commencé à poser des questions, je me suis rendu compte que finalement le monde scientifique n'allait pas dans une logique d'amélioration des conditions de vie humaines et environnementales, qu'elle n'allait pas vers une réduction des inégalités. Donc, vu que je ne me sentais pas en accord avec le système capitaliste actuel, j'ai essayé de trouver une alternative. Puis en discutant avec des amis aussi, on a fait ce chemin-là. Et cette alternative, c'était de gagner en autonomie. C'est un truc assez basique. Puis il y a cette expression à la mode, qui était déjà à la mode il y a environ 10 ans, c'est trouver un boulot qui a du sens. C'est pas trouver un travail pour avoir de l'argent, pour travailler, pour... apporter sa pierre à l'édifice de la société, parce que cette société-là ne m'intéresse pas, je ne trouve pas qu'elle soit vraiment bonne pour l'humain. Et donc, dans une logique de recherche d'autonomie, ça semblait relativement facile de tendre vers une production de légumes par le biais du maraîchage. Et c'est comme ça que je suis allé faire du woofing pour voir si ça me plairait vraiment. Donc voilà, l'idée avec des amis d'avoir sa ferme, de créer une alternative au capitalisme dans le sens que on est indépendant, on a le moins d'intrants possible et oui, on n'a plus besoin du capitalisme pour vivre et en plus on peut essayer d'emporter dans notre sillon des gens autour, notre entourage et puis des curieux. Voilà. Donc j'ai fait 2 années de woofing et donc dans l'idée de devenir maraîcher. Au début par curiosité, pour voir si ça me plairait vraiment. J'ai pas fait du woofing classiquement, c'est-à-dire que je travaillais pas 4-5 heures par jour, mais je demandais à travailler autant que les maraîchers chez qui j'allais, et maraîchères, pour me rendre compte vraiment de la... du travail et de la tâche à fournir, de l'ampleur, des moyens à utiliser, de l'organisation, de l'énergie à déployer pour que ça fonctionne, pour faire en sorte que ça marche. Et bon, après 2-3 expériences, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Ça a été un soulagement, parce que je trouve que c'est très insécurisant de ne pas savoir ce qu'on veut faire quand on est dans une société où le travail est si important, où on se définit par son travail, on dit, on se nomme, puis après on dit « je suis boulanger », voilà, c'est notre travail et notre statut, c'est presque nous même, c'est une fusion de tout ça. Et voilà, donc en me rendant compte de ça, j'ai eu l'impression de trouver un travail qui me semblait avoir du sens. Je me suis rendu compte assez vite que on avait le climat et les conditions pour, en France, être autonome en fruits et légumes, et alors que finalement, on importe la moitié de, ce qu'on, de fruits et légumes qu'on consomme. Et bon, comme ça me faisait peur de me lancer, je suis... parce que c'est dur de lancer une entreprise, surtout que, comme tu l'as dit, Louise, je ne viens pas du tout du monde agricole. Personne dans ma famille a fait de l'agriculture ces 3 dernières générations. Vu qu'en lancer une entreprise, c'est prendre des risques, je voulais trouver un système où il fallait amener le moins d'argent possible pour le lancer. Et donc, c'est comme ça que je suis allé vers ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire la permaculture à grande échelle, la permaculture professionnelle, disons, qui est très peu mécanisée. Il n'y a pas l'achat de tracteurs, il n'y a pas l'achat de grandes surfaces, il y a peu de charges. Et donc, à la fois, par cette fonction, j'avais l'impression de devenir autonome par rapport à l'achat de légumes, vu que c'est moi qui les produisais, qui les cultivais. Et dans le même temps, je voyais que je pouvais lancer cette structure sans pour autant faire un emprunt aux banques. Ouais. Parce que le coût de départ était peu important, peu de risques, peu de coûts de départ, ça allait bien avec mes idées en rapport avec la décroissance et en rapport avec essayer de sortir du capitalisme, de vivre autre chose. Voilà.
Juste par rapport à ça, il y a un truc qu'on a évoqué ensemble l'autre jour, c'était l'organisation, du fait que tu savais exactement comment tu allais t'organiser quand tu as démarré. Et moi, ça m'a fait penser un peu à un autre truc que tu m'as dit, où t'étais, pas que tu te sentais pas légitime, mais t'étais un peu inquiet de comment ça allait être pris par d'autres gens, ou des conseils qu'on allait te donner, etc. Et du coup, t'as tout organisé un peu à l'avance, très sûr de ce que t'allais faire.
Oui, quand je me suis formé, donc quand j'ai fait du woofing, j'en ai fait pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une quinzaine de fermes, et j'ai posé énormément de questions, j'ai eu la plupart du temps accès à la comptabilité et tout ça pour vraiment être sûr de mon coup un peu, savoir à la lettre ce que je voulais et ce que je voulais pas, qu'est-ce que je voulais acheter et qu'est-ce que je voulais pas acheter, comment je voulais fonctionner, à quelle échelle. Et c'est vrai que le milieu agricole, c'est la vision qu'on a du milieu agricole, c'est des tracteurs et des champs à perte de vue en monoculture ou alors énormément de bêtes, bon. Et donc, c'est difficile d'acheter un champ qui anciennement était un champ céréalier pendant des décennies, d'y aller. Et en fait, on débarque dans un village comme ça et on dit maintenant qu'on a acheté ce terrain, ça sera plus ça. On ne peut pas dire que ce ne sera plus jamais ça, mais pendant longtemps, ça a pu être ça. Et on va laisser pousser les arbres, on va laisser pousser l'herbe, même si les voisins disent que ça salit, que, parce que ça fait grainer, ça fait des plantes sauvages, et que derrière, ça va être plus difficile pour cultiver comme ils faisaient avant. Alors, en même temps, c'est pas mon objectif. Et donc, quand on n'est pas issu du milieu agricole, et qu'en plus, on transforme le milieu agricole localement, on reçoit des remarques, et puis même, on peut s'imaginer des choses. Bon, on m'a dit plusieurs fois que ce que je faisais n'était pas de l'agriculture. Moi, je ne suis pas le seul. En maraîchage bio sur petite surface, c'est souvent le cas. C'est vrai que des organismes comme la SAFER ou la Chambre d'agriculture ne prennent pas ce genre de projet au sérieux. Même ils peuvent le dire, la SAFER nous a dit clairement que ce n'était pas de l'agriculture et que ce genre de projet ne les intéressait pas, que ce n'était pas viable. Voilà, bon, aujourd'hui, je vois que c'est bien plus viable que la plupart des structures agricoles que j'ai pu observer, en tout cas. Voilà. Sans pour autant être dépendant des primes, des subventions nationales ou européennes.
Du coup, je voudrais rebondir là-dessus, parce que donc tu dis que tu n'es pas forcément pris au sérieux par des organismes, on va dire, officiels, mais à contrario, tu as quand même, tu nous as présenté un schéma hyper rentable, à la fois économiquement et intéressant sur le plan physique. Tu prends des vacances, tu ne travailles pas le week-end, tu ne fais pas des heures incroyables, et tu as quand même une organisation qui fait que physiquement c'est dur, mais ce n'est pas non plus tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Du coup, ça, c'est un truc que tu as mis en place, et en fait ça marche. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Pourquoi ça marche?
Ouais, enfin, comment tu t'organises pour que ça marche? Parce que l'autre jour, tu m'as dit que c'était facile d'être maraîcher. Pas du tout de manière péjorative pour les autres, mais juste que tu comprenais pas pourquoi ça marchait pas trop ailleurs et il y avait des gens qui galéraient. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir que, sans méchanceté, en fait, c'est vraiment ton système, il a l'air de fonctionner tellement parfaitement que tu peux pas comprendre pourquoi chez les autres ça marche pas. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi chez toi ça marche si bien.
Alors, je dirais, il y a plusieurs choses. La première, je dirais quand même qu'il y a assez peu de maraîchers qui s'installent et qui ont 2 ans dans les pattes de ferme, en maraîchage pur, maraîchage bio uniquement, différentes structures. En général, les gens qui s'installent ont moins d'expérience. Ça, c'est une première chose. Après, je pense que quand on est à son compte, on a des contraintes liées à être seul à bord, mais dans le même temps, on peut faire ce qu'on veut. On peut fixer comme l'objectif qu'on veut, les objectifs que l'on souhaite le plus. Et il y a souvent cette expression qui dit « quand on est à son compte, on compte pas ses heures ». Et moi, je me suis souvent dit le contraire, en fait. Quand on est à son compte, c'est justement parce qu'on est à son compte que si on veut, on peut compter ses heures. Et ça a été mon cas. Si mon objectif principal, au-delà de faire des légumes et que ce soit rentable, c'est d'avoir du temps libre. C'est-à-dire, concrètement, l'an passé, j'ai pris 3 mois de vacances dans l'année, 2 mois l'hiver et puis une semaine par-ci par-là. Je travaillais 28 heures en moyenne, 28h30 par semaine, le reste du temps, les 9 autres mois, et j'ai pris mes week-ends. Et si je suis arrivé donc en quatrième année à avoir ce résultat-là, et en troisième année déjà j'étais sur quelque chose de similaire, c'est parce que j'ai fixé toute ma stratégie, toute mon organisation en fonction de ça. C'est un de mes objectifs principaux. Et en fait, je crois que, et là, à chaque fois, je vais ramener les choses à la société, parce que je pense que la société induit des comportements tellement homogènes, en fait, que c'est une règle qui marche. Bah, il y a toujours des singularités, hein, bien sûr. Il y a une société de la valeur du travail, où on travaille énormément, et même quand on est à son compte, dans cette société, par conséquent, on ne se sent pas légitime à se dire « c'est bon, j'ai fait le boulot, j'ai travaillé 20 heures cette semaine, je m'en sors économiquement, je m'arrête. » C'est un truc de fou, en fait, ça. Quand aujourd'hui, les 35 heures, c'est considéré comme le minimum, mais en fait, la plupart des gens travaillent plus, pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler. Et donc, je pense que ça joue. Donc derrière, quand un certain nombre d'individus vont s'installer, que ce soit en agriculture ou autre chose, ils vont peut-être même pas penser à se dire qu'un de leurs objectifs, ça pourrait être de pas travailler beaucoup. Mm. d'avoir du temps libre pour faire d'autres choses, pour s'épanouir. Et finalement, donc je parlais de la décroissance tout à l'heure, qui dit décroissance dit après de l'intérêt pour le marxisme. Et donc dans le marxisme, il y a cette idée d'aliénation au travail qui fait qu'en fait on consacre tout son temps, toute son énergie à l'activité travail. Et c'est au détriment de soi-même, et c'est au détriment de notre épanouissement. Et je sais pas, moi j'ai pour ambition d'avoir une vie pleine. Et pour avoir une vie pleine, c'était important que j'axe mon organisation du travail pour économiser le plus de temps possible.
Quand tu disais oui, tu prends des vacances, tu prends 2 mois de vacances, etc. Et est-ce que du coup, tu te sentais pas un peu aussi légitime de devoir nourrir des personnes, par exemple du village, pendant ces 2 mois et se dire bah non, enfin c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai envie de prendre de mon temps libre. Après, c'est un peu ce que t'as déjà dit, c'est que tu penses d'abord à toi et avant tout. Mais qu'est-ce que tu pouvais dire par rapport à ça?
Non, peut-être que ça rentrerait en compte si je nourrissais vraiment le village. Quand je dis que je nourris le village, j'ai peut-être, 15 foyers du village qui viennent. C'est très peu. Mais c'est vrai que si je nourrissais vraiment le village, ça m'encouragerait à peut-être trouver un système où je peux continuer à fournir des légumes, s'il y avait vraiment cette relation de dépendance. Mais aujourd'hui, dans le village, les gens consomment quand même majoritairement des fruits et légumes qui ne sont pas locaux. Et alors qu'on est quand même 3 structures maraîchères dans ce village-là. Donc,
pour combien d'habitants ?
Sur 700 habitants.
Ok, d'accord.
700 habitants, il y a à peu près 300 foyers. Voilà. Bon, je nourris 15 foyers. C'est pas monstrueux. Du coup, je nourris beaucoup d'autres gens à l'extérieur du village. Mais bon, c'est vrai que... Donc voilà.
Mais du coup, par rapport à ça, si tu disais un peu, oui, il faudrait que je nourrisse plus de gens ou quoi, est-ce que, à la place de travailler plus, tu te verrais peut-être embaucher quelqu'un?
C'est une question difficile, ça. Parce que embaucher quelqu'un, ça dépend dans quelles conditions. Je trouve que... Alors, c'est très difficile de dire ça, mais je trouve que les charges patronales pour les petites structures, elles sont infâmes, en fait. Embaucher quelqu'un sans le payer au noir, ça induit un changement très très en profondeur de la taille de la zone cultivée. Parce que ça induit tellement de charges. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression de préférer des structures avec une seule personne officiellement, et peut-être après des stagiaires ou des woofers pour aider, plutôt qu'une structure avec un salarié. Parce que les charges sont tellement importantes pour ce salarié que ça induit une augmentation assez, voire très importante, du coût des légumes. Alors en bio, je trouve que c'est très gênant parce que, en fait, ça me fait mal au cœur de me dire que, sous prétexte qu'on est plus pauvre, on ne peut pas avoir accès à de la nourriture qui ne soit pas empoisonnée. Voilà. Je ne veux pas créer cette inégalité-là. Mais par contre, c'est vrai que, le jour où peut-être il y a moins de charges liées à ça, là, peut-être, ça pourrait être intéressant. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est important qu'il y ait des impôts en France. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même des contextes où c'est trop, en fait, par rapport à la structure.
D'accord.
Bah, du coup, je vais peut-être enchaîner sur un côté un peu plus technique. Mais du coup, tu as parlé de maraîchage sol vivant. Et il me semble que les techniques culturelles que tu utilises au-delà de... Bon, le maraîchage, je pense que tout le monde voit à peu près... on va pas trop détailler, mais le maraîchage sol vivant, c'est un peu particulier. Et je pense que c'est lié... Enfin, c'est un peu grâce à ça que tu peux avoir cette organisation-là et gagner beaucoup de temps sur plein de choses que d'autres maraîchers font. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi tu gagnes du temps grâce à ça?
Alors, je dirais que même en travail du sol, donc l'inverse, à mon avis, un peu du maraîchage sur sol vivant, on peut avoir de très bons résultats, avoir du temps libre et s'en sortir très bien économiquement. Maintenant, le maraîchage sur sol vivant, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un tracteur, donc il n'y a pas besoin de le réparer, il n'y a pas tout un tas de charges qui sont mises en jeu. Le principe, il est simple. En fait, il y a des cycles naturels dans le sol. Et c'est vrai que l'agriculture, depuis le début, a peu pris en considération les cycles naturels du sol parce qu'ils sont invisibles. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on les voit assez peu, mais ils permettent de préparer le sol sans une action mécanique. Donc, sans un outil soit manuel, ça peut être une grelinette, ça peut être une houe, ça peut être autre chose, ou alors un tracteur, ou alors même un cheval qui va tirer un outil. Et donc, si c'est fait naturellement dans le sol, et qu'il n'y a pas besoin d'acheter du matériel pour le faire, donc ce travail du sol, la préparation, la structuration du sol, et donc ça peut se faire parce qu'on nourrit suffisamment le sol par le biais de matières organiques diverses, en fait, derrière, on a très peu de charges. Et progressivement, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total de tous les légumes vendus à la fin de l'année, correspondent aux bénéfices, parce que finalement, les charges sont, bon, on ne peut pas dire pas significatives, mais peu significatives. Bon, concrètement, l'an passé, j'étais sur un chiffre d'affaires de 22 000 euros. J'ai 3 500 euros de subvention parce que je suis en agriculture biologique. J'ai 1 500 euros de PAC en plus, et ces 5 000 euros additionnés répondent à tous mes besoins en charge de fonctionnement et de la dégradation du matériel. Et donc, en fait, mon chiffre d'affaires, c'est mes bénéfices. Donc, si je fais 22 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, je fais 22 000 euros de bénéfices. Et donc, ça, c'est possible parce que, comme j'ai peu de charges, je peux faire une petite surface. Parce que derrière, je n'ai pas besoin de faire une grande surface pour compenser mes charges. Ouais. Donc derrière, si j'achète un sachet de graines de navet à 10 euros et que je prends les 2 heures nécessaires à bien les mettre en place, je vais ramasser 100, 200 kilos de navet. Je vais être amené à ramasser ça pour 2 heures de mise en place. Et donc, c'est très, très rentable comme situation. C'est très, très rentable. Voilà. Pour revenir à la question de tout à l'heure sur, par exemple, la surprise que j'ai vis-à-vis de mes collègues qui ont des difficultés à s'installer, donc, et à fonctionner, à prendre du temps libre, à prendre du repos aussi, je dirais que, en plus, peut-être du manque de formation au départ, mais bon, au bout d'un moment, avec l'expérience, c'est aussi, c'est dit, si on ne sait pas qu'on se lance dans un fonctionnement avec très peu de charges, c'est très difficile, en cours de route, de changer de chemin, de changer de voie. Une fois qu'on a les tracteurs, ben on se sent obligé de les utiliser. Ouais. C'est très difficile de se dire, bon, ben non, là, ça va pas, je travaille trop, je vends mes tracteurs et je pars sur une autre base. Là, voilà, donc je pense que ça joue. Bon, je pense que dans les années à venir, ma situation va encore s'améliorer. Je pense pouvoir descendre à 20 heures par semaine et conserver les 3 mois de vacances par an, voire un peu plus, parce que le sol sera de plus en plus adapté. Ça fait que 5 ans que j'y suis. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc je suis en cours de route et je ne suis pas spécialement sur un sol particulièrement facile. Je suis sur un sol hydromorphe, plutôt argileux. Voilà, les conditions de base ne sont pas excellentes. Elles sont correcte, voire bonne, mais c'est pas extraordinaire. Voilà.
Il y a une phrase que j'avais relevée, que j'avais beaucoup aimée. Tu m'avais clairement dit, si je devais me réinstaller aujourd'hui, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose et voilà, parce que je l'ai bien fait et j'étais préparé. Je sais que je voulais le faire comme ceci et c'est très bien maintenant.
Oui, c'est... ouais, je suis content, j'ai bien réfléchi à mon système, au design permaculturel de départ. non, parce qu'en fait, même par rapport à mes objectifs, je pensais pas aller si loin, c'est-à-dire gagner si bien ma vie en travaillant aussi peu. Souvent, je me sens peu légitime à dire ça, à penser ça, quand je vois mes collègues agriculteurs de tous bords travailler énormément, être hachés physiquement. C'est un peu dur de dire ça, mais bon... En tout cas, voilà, c'est possible, ça existe. J'ai pas créé ce modèle de toutes pièces, c'est parce que j'ai eu la chance de les rencontrer et puis de rencontrer des gens qui se sont cassés les dents avant de trouver un modèle similaire que j'ai pu lancer finalement assez calmement cette activité sans prendre de risques, si bien que en fait, dès la 3e saison, j'étais dans des conditions très très bonnes et qui était déjà au-delà de mes objectifs de base. Voilà, je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais ça donne de l'espérance de se dire qu'en fait, on peut faire de l'agriculture, et sans travailler pour autant beaucoup, sans passer par les banques au départ, et sans trop se casser la tête, pourvu qu'on soit suffisamment formé et organisé.
Ouais. Voilà. Et du coup, ça, j'ai envie d'appuyer sur un point qui est sans doute un conseil que tu pourrais donner, de se former plus par l'expérience, de rencontrer un maximum de gens qui travaillent dans la branche qu'on veut faire pour s'inspirer des bonnes et des mauvaises choses, pas faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire, etc. Plus que par la formation classique
oui.
de cours, etc. On en a parlé un peu ensemble et tu nous as dit que c'était pas du tout grâce à des formations que tu avais appris ton boulot. Et je trouve ça bien de le mentionner et de rappeler que qu'il faut s'inspirer de gens qui font déjà ces choses-là.
Oui, c'est un peu... en France, on a une administration très lourde qui met les gens dans des cases. Donc pour être électricien, il faut avoir un diplôme d'électricien. Moi, ce que je dis pour le maraîchage, c'est, je pense que c'est applicable dans énormément de domaines et pas forcément uniquement les métiers manuels. Je pense que si quelqu'un est motivé pour faire technicien dans un labo, voire ingénieur par exemple, je pense qu'à force d'être au contact de techniciens et d'ingénieurs, il peut y arriver, peut-être en prenant des cours du soir, mais prendre des cours du soir, ça peut être soit avoir un collègue, comme ça se faisait avant aussi, hein. Il y a deux générations, à l'après-guerre, il y avait beaucoup d'ouvriers, il y en a certains, ils sont devenus ingénieurs, parce qu'il y a des collègues qui les ont formés, et donc ils travaillaient dans l'entreprise, et le soir, ils étaient formés par un de leurs collègues qui les faisait rattraper leur niveau, au niveau de, pour les mathématiques ou pour des choses comme ça. Je crois que c'est beaucoup plus efficace le théorique dans le concret, c'est-à-dire l'application du théorique quotidiennement, que cloisonner le théorique, donc assis devant un prof pendant plusieurs années, et à la fin du cursus, partir en stage. Je pense que c'est plus efficace que les deux soient présents en même temps. Et souvent, en fait, d'ailleurs, je trouve un peu le cercle vicieux, l'impasse du théorique, c'est-à-dire l'impasse de l'enseignement. Souvent, les enseignants sont formés à enseigner, mais ils ne sont pas formés à vraiment très bien connaître leur secteur d'activité. Et je pense que pour bien enseigner un secteur d'activité, il faut y avoir bossé au moins 10, 20 ans dans ce secteur. Et si juste on a été formé à enseigner, en fait, on théorise de la théorie pour des futurs individus qui vont vouloir travailler dans un secteur. Mais finalement, on s'éloigne du sujet de ce secteur. Et puis, comment se rendre compte réellement en tant qu'étudiant si le secteur nous intéresse, tant qu'on n'a pas vraiment mis les mains dedans, tant qu'on n'a pas vraiment mis les pieds dedans non plus. Ouais. C'est le troisième souci de ce cloisonnement. C'est-à-dire la qualité des cours, qui est peut-être trop abstrait. Y a ce truc où on n'est pas dedans, donc finalement, on va faire le diplôme, on va commencer, puis on se rend compte, bah non, en fait, ça me concerne, ça me va pas. Et voilà.
Et du coup, grâce au woofing, vous avez quand même, au-delà d'une aide sur le travail au champ, la possibilité aussi de transmettre à plein de gens autour de vous. Et ça, je trouve ça trop cool parce que vous avez l'air d'accueillir beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est... Enfin, de la façon dont vous en parlez, c'est aussi une expérience pour vous de transmission. Et je trouve ça très cool je sais pas comment dire, t'es quand même super jeune par rapport à la moyenne des gens avec qui on a parlé et tout ça, et je me dis, c'est super d'avoir déjà cette démarche de transmission, alors que ton exploitation est quand même assez récente.
Oui, je trouve en plus c'est cohérent, je dis, j'aime pas trop ce côté, on met l'école d'un côté et l'activité professionnelle de l'autre, et ben oui, alors c'est un objectif aussi d'accueillir des woofers, pas uniquement pour l'aide qu'ils nous prodiguent, donc 3 mois dans l'année. Mais cet élément où il y a déjà un échange qui est non financier,
ouais.
Il y a un rapport humain, on réapprend à vivre ensemble aussi, à vivre avec des inconnus sous le même toit, Donc ça, c'est un peu révolutionnaire aujourd'hui, je crois. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect de transmission concrète où moi, en fait, je me régale à répondre à toutes les questions qu'on peut me poser. Et ça me fait aussi avancer dans mon travail. C'est-à-dire que quand on enseigne quelque chose, on se rend compte qu'il y a des trous dans notre savoir. Et donc, on apprend en enseignant.
Ça t'est déjà arrivé de te remettre en question sur certains trucs que tu faisais au champ, dans la production et tout, suite à des questions de stagiaires ou je sais pas.
Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, des fois, je l'ai pas forcément mis en place complètement, mais en tout cas, ça reste dans ma tête. Et progressivement, peut-être que je vais tendre plus vers les propositions ou les questions qu'on va poser. Ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Il y aurait une dernière chose.
Vas-y,
en fait,
c'est
sur les objectifs de cette structure agricole.
Ouais.
Donc j'ai dit donc il y avait cette idée de temps libre, de nourrir des gens, c'est vrai. Il y a l'objectif de transmettre, de créer une alternative au capitalisme. Et la dernière chose, c'était aussi de faire de la recherche. Parce que moi, je viens un peu du monde de la recherche, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et voilà, donc au-delà de la nourriture qui est récoltée, c'est plus améliorer des techniques en low-tech, faire de la recherche, et finalement, l'amélioration des techniques culturales, pour moi, c'est plus intéressant et plus important que de récolter des légumes pour nourrir les humains.
D'accord.
Ça peut sembler un peu provocateur pour un agriculteur, mais aujourd'hui, j'en suis là, ouais. Cet élément me semble très important. Et j'ai une dernière chose. Donc, j'ai parlé de décroissance. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est... Ce que je me dis, c'est... quand on ne veut pas fumer de la nicotine, on n'achète pas de cigarettes, comme ça, on n'est pas tenté de s'y mettre. Et quand je parle de décroissance, en fait, je veux dire que... aujourd'hui, je pense que la France est trop riche. Elle a trop d'argent. Et comme on a trop d'argent, on est tenté de consommer des éléments qui sont polluants et qui peut-être détruisent des vies humaines. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités en France, mais j'aimerais aussi que la France s'appauvrisse. C'est un élément très important pour moi et c'est quelque chose qu'avec Hélène, on vit. Donc on vit avec peu d'argent, avec peu de moyens, par rapport à la France, bien sûr. Et j'ai envie, quand on accueille du monde, que ça inspire les gens pour vivre sobrement, cette idée de sobriété heureuse. Et je me dis, si on est un pays plus pauvre, en fait, on sera moins tenté d'acheter les nouveaux trucs à la mode, de nouveaux objets. Et par conséquent, peut-être on se focalisera plus sur des choses un peu plus essentielles et peut-être plus aussi constructives pour l'épanouissement humain. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu dans mon modèle agricole. Comme je dis souvent, l'agriculture, c'est pas juste un travail, c'est aussi un mode de vie. Et les deux fusionnent, en fait. Et voilà.
Est-ce qu'il y a un moment, une saison, une action que tu préfères dans ton boulot et qui te rend super content quand tu sais que tu vas la faire?
Ouais, j'aime bien le printemps. C'est le lancement des cultures. Bon, je l'ai pas dit, moi je cultive une cinquantaine de légumes différents. À peu près tout ce qui est cultivable en France. Donc j'aime bien travailler sur les variétés. Et donc je travaille avec 100-150 variétés chaque année. Et donc en moyenne 2-3 variétés par légume. Là cette année j'ai fait une douzaine de variétés de tomates, 3 variétés de melons, etc. Et donc ce moment au printemps où je vais lancer, tiens, j'ai jamais essayé cette variété de melon carré marron qui a goût d'orange. Et ça existe, allez, vas-y, on essaie, et on va voir. Et des fois, il y a des bonnes surprises. Et puis, c'est un peu le moment aussi où... Moi, j'aime bien ce moment parce que je cultive vraiment. Je n'ai pas la commercialisation. C'est vraiment la partie qui m'intéresse le moins dans mon travail. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce moment. Ouais.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs agriculteurs ou maraîchers?
Bon, je risque de me répéter. Bon, bien se former au début. Et oui, c'est vrai que je ne considère pas qu'il y a d'école aujourd'hui en agriculture qui enseigne l'agriculture. Je pense que les écoles qui enseignent, qui disent enseigner l'agriculture, enseignent plutôt l'administration qu'il y a autour, ont certains éléments, mais pas vraiment les méthodes culturelles. Donc, se former auprès de paysans, de maraîchers, directement, au moins une année. Voilà, une année, on a le temps de bien voir, je pense, l'organisation, être très très organisé, bien définir ses objectifs au départ. Moi, mon objectif, c'est pas de nourrir le plus de gens possible, mais d'avoir du temps libre, tout en nourrissant une partie non négligeable quand même du village où je suis. En tout cas, c'est mon objectif. Mais après, ça peut être les objectifs peuvent être très variés. Essayer de pas se, je dirais, essayer de pas se voiler la face aussi, être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie réellement? Quelle est la part de la société qui m'influence, mais qui n'est pas vraiment moi. Donc essayer un peu de prendre de la distance par rapport aux attentes de l'entourage et culturel, pour essayer d'avoir une entreprise dans laquelle on se sent bien, et on est d'autant plus légitime à se sentir bien dans ce cadre-là que c'est notre entreprise. Voilà. Donc finalement, s'approprier son fonctionnement en tenant compte, mais quand même avec un esprit critique de ce qui se passe autour.
Ok.
C'est un podcast sur les métiers manuels et on voudrait savoir qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains et qu'est-ce que tu voudrais leur dire, par exemple.
Ah, alors qu'est-ce que je peux dire de mes mains? Et en même temps, ça coïncide avec la question de tout à l'heure sur un peu les contraintes aussi, quand même. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est pas si évident que ça non plus, hein. Moi, ça, j'ai l'impression que ça m'a paru facile, mais bon. Peut-être que dans le fait, je suis peut-être un peu optimiste aussi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que la charge émotionnelle, ce truc où, en fait, quand tu es agriculteur, tu penses toujours aux cultures. C'est comme quand tu as un enfant et que tu dors, tu as toujours un demi-œil ouvert. Ouais. Ce truc un peu où, quand tu es à ton compte, finalement, même le week-end, tu es encore à ton compte, tu n'es pas salarié. Quand on est peu mécanisé, physiquement, c'est dur. Et le dos va prendre. Moi, je me suis bloqué le dos plusieurs fois quand même, 3 fois en 5 ans. Et au niveau des mains, c'est vrai que souvent j'ai mal aux mains en fin de journée, par temps pluvieux. Ça me permet d'indiquer la météo, mais c'est pour savoir un peu plus sur ce qui va se passer. Dans cette logique-là, je dirais que je ne ferai pas 40 ans de maraîchage. Je ne ferai pas 40 ans d'un métier manuel de manière intensive, en tout cas. Et. Parce que j'ai pas envie non plus de m'abîmer le corps trop profondément. Et donc, si j'avais quelque chose à dire à mes mains, je leur dirais merci pour votre aide. J'espère que vous allez tenir le plus longtemps possible. Mais si je vois que ça va plus du tout, ou si je vois que ça commence à être vraiment difficile, j'hésiterai pas à passer à autre chose, et parce que je vois trop souvent des gens qui ont fait un métier manuel toute leur vie, qui ont par exemple leurs clés qui tombent par terre, et en fait pour eux c'est quasiment impossible de les ramasser parce qu'ils sont trop cassés, et c'est quand même très dommage d'avoir une longévité accrue comme ça dans le monde occidental et se retrouver avec une longévité en bonne santé si basse. Voilà, donc j'ai envie de conserver une bonne santé, même en vieillissant.
On te le souhaite.
Merci.
Très beau mot de la fin.
Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Joachim.
Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et de la partager autour de toi. Cet épisode a été financé par Isabelle, alors merci beaucoup pour ton soutien. Dans le prochain épisode, on restera dans l'Ariège pour aller à la rencontre d'Hélène qui crée des habits en feutre de ses propres mains. Allez, à bientôt.